Alors j'en viens maintenant au sujet du jour, qui concerne donc l'expérience passée du mouvement ouvrier confronté au cataclysme des précédentes guerres mondiales. Et c'est un sujet que l'actualité nous a incité à choisir. En février dernier, à propos de la guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU déclarait « Le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une nouvelle guerre plus large ». Il n'est pas le seul. Des généraux, eux, ont parlé de guerre de haute intensité. Le changement de ton est perceptible depuis des mois. Les mécanismes d'une nouvelle marche à la guerre se mettent en place, à commencer par l'explosion des budgets militaires. 413 milliards pour l'armée française dans la prochaine loi de programmation. Près de 300 milliards sur 4 ans pour l'armée allemande, pour ne citer que cela. La production de chars, d'obus et d'autres équipements a été relancée d'abord pour en fournir à l'Ukraine, mais aussi parce que tous les pays se dirigent vers la mise en place d'une économie de guerre, terme utilisé par Macron lui-même devant les industriels français de l'armement. Et ce réarmement n'est pas seulement matériel. Il faut aussi préparer les esprits. En cas de conflit, l'armée doit pouvoir s'appuyer sur les forces morales de la nation, disent les généraux. Le 4 avril dernier, le journal Les Échos titrait même « Union sacrée pour nos armées », expliquant qu'en période de guerre, il y a des combats qu'il faut savoir ne pas mener. En l'occurrence, on n'aurait déjà plus le droit, moralement, de protester contre l'augmentation du budget des armées. Tous unis pour défendre la patrie, voilà ce qu'on commence à nous mettre dans la tête. En Russie et en Ukraine, on n'en est plus là. C'est déjà la mobilisation de plus en plus souvent forcée des travailleurs, des jeunes, la censure, les tribunaux militaires. Et au nom de la lutte contre l'agresseur russe et contre le dictateur Poutine, pour la prétendue indépendance et pour la liberté de l'Ukraine, il faudrait soutenir non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi l'OTAN, qui fait la guerre par procuration avec la peau des Ukrainiens. Alors nous avons été parmi les seuls, au début de la guerre, à ne pas applaudir des deux mains l'envoi d'armes au gouvernement de Zelensky et à dénoncer les pays impérialistes qui jettent de l'huile sur le feu. Le conflit dure, risquant toujours de s'étendre, et il apparaîtra peut-être demain comme ayant été l'une des étapes d'une nouvelle guerre généralisée. Car oui, les images de l'Ukraine aujourd'hui, des tranchées, des villes bombardées, des populations en fuite, rappellent celles des deux précédents conflits mondiaux. Par deux fois déjà, le mouvement ouvrier a été confronté au carnage à l'échelle de la planète. Alors nous voulons revenir aujourd'hui sur la manière dont les partis et les militants, à l'époque, ont affronté la marche à la guerre, puis la guerre elle-même. Comment ils ont réagi face à la montée des nationalismes, à la propagande guerrière, aux pressions de toutes sortes. La guerre surprend toujours les classes populaires au moment où elle éclate, même quand l'engrenage est enclenché depuis longtemps, quand les alliances se sont déjà formées et quand les États sont armés jusqu'aux dents. Elle interrompt le cours de la vie quotidienne et bouleverse l'existence des classes laborieuses. Elle met aussi les organisations ouvrières et leurs militants au pied du mur et constitue pour eux une véritable épreuve du feu. À cet égard, l'expérience du mouvement ouvrier confronté aux deux guerres mondiales doit nous faire réfléchir. Alors pour y revenir, je passe maintenant la parole à Camille Palieri.
Les manuels scolaires, la presse, les politiciens insistent souvent sur le fait que les guerres seraient déclenchées par un dictateur ou un événement particulier. L'attentat de Sarajevo pour la Première Guerre mondiale, l'invasion de la Pologne par Hitler pour la Seconde. Mais ces pseudo-explications masquent en réalité les racines profondes des deux guerres mondiales, l'impérialisme. Bien sûr, il y a eu dans l'histoire bien d'autres guerres avant celle-ci. Mais comme disait Rosa Luxembourg dès 1898, la guerre a été un auxiliaire indispensable du capitalisme. En effet, les premiers États nationaux modernes, en particulier la France et l'Angleterre, ont unifié leur territoire et renforcé leur appareil d'État par la guerre. Cette unification a constitué une base à partir de laquelle ils ont pu se développer de manière bien plus efficace et rapide que les autres. Cela leur a permis, avec des moyens militaires accrus et centralisés, de conquérir des colonies, sans lesquelles les groupes capitalistes n'auraient jamais réussi à accaparer les terres les plus fertiles, les mines les plus riches. En Afrique, en Asie, en Amérique, les matières premières ont été pillées, épuisées, des populations mises au pas, voire exterminées, pour permettre aux capitaux européens, en premier lieu français et britanniques, de prospérer, d'alimenter le développement industriel de ces pays. Et ce faisant, ils ont irrémédiablement entravé le développement des pays qu'ils colonisaient. Le sous-développement de ces derniers n'est donc pas un simple retard de croissance qui pourrait être rattrapé, mais à la fois une conséquence et une condition du développement capitaliste. Comme le capitalisme nécessite une expansion permanente, la planète entière fut bientôt mise en coupe réglée. Dès la fin du XIXe siècle, il ne restait plus aucun territoire sur le globe qui ne soit pas colonisé, ou en tout cas contrôlé, pour le plus grand profit des capitalistes. Ils étaient aidés en cela par leurs États nationaux, qui utilisèrent tous leurs moyens pour leur permettre de conquérir de nouveaux marchés. Armées, administrations coloniales, monopoles commerciaux. La concurrence effrénée du XIXe siècle avait donné naissance à de grands groupes qui avaient dévoré les plus petits pour se constituer de véritables empires. Dès le début du XXe siècle, les groupes pétroliers Standard Oil et Shell, par exemple, sont en situation de monopole sur leur marché. C'est ce dernier stade du capitalisme que Lénine a appelé l'impérialisme. Le capital financier est alors concentré dans des groupes de moins en moins nombreux, mais de plus en plus puissants. La guerre économique se fait nécessairement de plus en plus féroce, de plus en plus brutale. Elle entraîne des nations entières et bientôt toute la planète. L'impérialisme aggrave les contradictions du système. La mondialisation de l'économie se heurte à chaque pas aux limites que constitue la propriété privée des moyens de production et aux frontières nationales. Dans cette course aux débouchés et aux nouveaux territoires, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les vieilles puissances industrielles, comme la France et l'Angleterre, ont un temps d'avance dans le pillage de la planète. À son apogée, à la fin du XIXe siècle, l'Empire britannique s'étend sur 26 millions de kilomètres carrés et s'impose à 400 millions d'hommes. La France, elle, n'est pas en reste. Même avec un empire plus modeste de quelques 11 millions de kilomètres carrés, elle domine de larges pans de l'Afrique de l'Ouest et du Nord et s'étend jusqu'en Asie avec l'Indochine ou encore des concessions en Chine. Par exemple, le groupe Le Sieur a fait fortune grâce à l'arachide du Sénégal et Michelin grâce aux EVA d'Indochine. Les pays impérialistes se sont déjà taillé la part du lion quand de nouvelles puissances émergent, en particulier l'Allemagne. L'industrie allemande est dynamique. La bourgeoisie accumule rapidement des capitaux. Il lui faut à son tour trouver des débouchés et des colonies. Les impérialismes entrés tardivement dans l'arène sont ainsi amenés à entrer en concurrence avec les plus anciens. La guerre économique mène inévitablement à la guerre militaire qui n'en est que la continuation. Depuis la fin du XIXe siècle, poussées par ce besoin de s'étendre, les grandes puissances européennes s'affrontent donc un peu partout dans le monde, directement ou par pouvoirs régionaux interposés. Dès 1853, la guerre de Crimée, déjà, oppose la France et la Grande-Bretagne à la Russie. Chacune de ces puissances convoite des parties de l'État turc en train de se décomposer. C'est une guerre déjà moderne, par les moyens techniques employés comme par l'ampleur de la boucherie, 750 000 morts. En 1885, la Russie mène des opérations à la frontière avec l'Afghanistan, alors sous protectorat britannique. En 1898, la course à la conquête de l'Afrique de l'Est provoque une crise diplomatique qui manque de dégénérer entre la France et la Grande-Bretagne, quand deux détachements militaires arrivent en même temps à Fashoda, au Soudan. En nette infériorité numérique, la France se retire, obtenant néanmoins en échange... ils obtiennent donc néanmoins en échange la promesse britannique de soutenir la politique coloniale française au Maroc. En 1904 et 1905, le Japon allié à l'Angleterre et la Russie alliée à la France s'affrontent militairement. Une guerre qui débouchera sur une première révolution en Russie à la suite de la défaite de l'Empire tsariste. En 1905 et 1911, le ton monte entre la France et l'Allemagne qui se disputent le Maroc. En 1910-1911, c'est au tour de l'Italie, qui convoite des terres contrôlées par les Turcs, d'entamer une guerre contre l'Empire ottoman. Enfin, en 1912-1913, prélude à la Première Guerre mondiale, les États balkaniques se liguent contre l'Empire ottoman avant de se déchirer entre eux. L'Autriche-Hongrie y voit une occasion de mettre la main sur la Serbie alors que cette dernière est soutenue par la Russie. Alors, on a l'habitude d'entendre que la Première Guerre mondiale a été déclenchée par un simple événement, en l'occurrence l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche par un nationaliste serbe le 28 juin 1914. Mais en fait, les tensions diplomatiques et militaires entre États sont allées croissantes depuis la fin du XIXe siècle. Cela a donné lieu à des conflits limités qui ont permis aux différentes puissances de contracter et de modifier des alliances, de tâter les forces de l'ennemi du moment. Par exemple, la France et l'Angleterre, qui allaient se retrouver dans le même camp en 1914, s'affrontaient encore quelques années plus tôt en Afrique. Ces alliances, largement de circonstances, étaient dictées par les intérêts bien compris des capitalistes. Finalement, à la veille de 1914, la France, l'Angleterre et la Russie ont constitué une alliance diplomatique et militaire, la Triple Entente, tandis que l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie font de même avec la Triple Alliance. Depuis le début du XXe siècle, le monde avait semblé plusieurs fois au bord d'un conflit généralisé. Il était bien difficile de dire quelle serait l'étincelle qui allumerait le baril de poudre. À tel point qu'un militant pourtant tout à fait conscient de la menace, comme Pierre Monat, un syndicaliste révolutionnaire français qui militait activement contre la guerre impérialiste, part se reposer à la campagne le 1er août, quelques jours avant la déclaration de guerre. Après tant d'alertes dans cette situation explosive, il ne se doute pas que l'attentat de Sarajevo sera le détonateur de la guerre généralisée. Les engrenages qui s'étaient mis en place bien des années avant se sont alors mis en branle pour mener inéluctablement à la guerre. Alors que l'humanité va être plongée dans la tourmente sur le point de s'abattre, où en est la classe ouvrière ? Dans la période précédente, le développement de plus en plus rapide du capitalisme a fait grandir un prolétariat très nombreux, concentré dans de grands centres industriels, en France, en Allemagne, en Angleterre et jusque dans la Russie tsariste. Le mouvement ouvrier européen est alors dominé par la social-démocratie. Les partis sociaux-démocrates luttent contre l'exploitation, pour l'abolition du capitalisme et pour l'instauration du socialisme. Ils reprennent à leur compte les idées que Marx et Engels ont élaborées quelques décennies plus tôt, et notamment la perspective politique contenue dans la célèbre phrase « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». La Seconde Internationale, fondée en 1889, réunit sous son drapeau les partis sociaux-démocrates allemands, russes, polonais, autrichiens, anglais, français, belges, suisses et d'autres encore. Cette union concrétise l'idée que les prolétaires n'ont pas de patrie, qu'ils ont des intérêts communs par-delà les frontières et contre leur propre bourgeoisie. Les partis sociaux-démocrates acquièrent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe un poids considérable, notamment en Allemagne, où le parti édite des dizaines de journaux et fonde une école où les militants peuvent étudier le marxisme. En 1912, il obtient 110 députés, avec 1,5 million de voix, soit 35% des électeurs. La Seconde Internationale dénonce le militarisme. En 1905, en pleine guerre russo-japonaise, au Congrès d'Amsterdam, les délégués socialistes russes et japonais se serrent la main sous les ovations. En 1907, à Stuttgart, le Congrès de l'Internationale adopte la résolution suivante. Le Congrès confirme les résolutions des précédents congrès internationaux et rappelle que l'action contre le militarisme ne peut pas être séparée de l'ensemble de l'action contre le capitalisme. Les guerres sont favorisées par les préjugés nationalistes que l'on cultive systématiquement dans l'intérêt des classes dominantes afin de détourner la masse prolétarienne de ses devoirs de classe et de ses devoirs de solidarité internationale. Les socialistes dénoncent l'impérialisme et les conquêtes coloniales. Ils soulignent que les alliances et les ententes entre des États qui sont par ailleurs rivaux dans la guerre économique ne sont en aucune façon une garantie de paix, mais ne font que préparer la marche à la guerre. En France, la CGT, alors seul syndicat présent dans la classe ouvrière, se réclame de l'anarcho-syndicalisme et mène une propagande active contre la guerre. La SFIO, le parti socialiste de l'époque qui appartient à la Seconde Internationale, regroupe alors plusieurs courants, des marxistes comme Jules Guesde jusqu'aux réformistes Jean Jaurès. Tous dénoncent alors la guerre. On connaît la célèbre phrase de Jaurès « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Mais tous, malgré leur référence à la lutte de classe, ne poussent pas le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la nécessité pour la classe ouvrière de mener la lutte révolutionnaire jusqu'au renversement de la bourgeoisie. Jaurès, lui, malgré son opposition irréductible à la guerre, reste sur le terrain de la diplomatie bourgeoise. En 1908, il veut croire que l'accord entre les gouvernements français, anglais et russes peut avoir des buts et des effets pacifiques. Tandis que d'autres, plus conséquents, comme Lénine, sont convaincus que la seule issue favorable pour le prolétariat est la transformation de la guerre impérialiste entre les peuples en une guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs. Certains socialistes affirment que, pour empêcher la guerre, l'Internationale peut déclencher une grève générale au moment qu'elle choisira. D'autres, comme Rosa Luxembourg ou Alphonse Mérheim, secrétaire de la Fédération CGT des métaux, trouvent cette idée ridicule, à juste titre, car non réaliste. La social-démocratie n'a pas la faculté de déclarer la grève générale à sa convenance. Selon Mérheim, on substitue une proclamation d'intention à une véritable préparation des esprits contre la guerre. Toujours est-il que, malgré ces désaccords, les organisations ouvrières, dans leur ensemble, mènent activement la propagande contre la guerre. Au moment des conflits dans les Balkans, en 1912-1913, l'Humanité, le journal de Jaurès, affiche en une « Vive l'Internationale ouvrière, à bas la guerre ». La CGT organise une grève générale le 16 décembre 1912 et placarde une affiche intitulée « Guerre à la guerre ». Cette grève est suivie à Paris par des dizaines de milliers de travailleurs. Pour répondre au gouvernement qui allonge le service militaire de 2 à 3 ans en 1913, la CGT et la SFIO organisent au Pré-Saint-Gervais près de Paris des meetings qui rassemblent 150 000 à 200 000 personnes en mars 1913 et de nouveau 100 000 à 150 000 personnes en mai. Jusqu'à la veille de la guerre, comme à Paris le 27 juillet 1914, de grandes manifestations pacifistes sont organisées. Toute cette agitation laisse craindre de possibles réactions dans la classe ouvrière lorsque la guerre éclatera. De son côté, la bourgeoisie prépare la répression et la police dresse des listes de militants à arrêter préventivement. Le déclenchement de la guerre à l'été 14 va être une grande défaite pour le mouvement ouvrier, parce que ses dirigeants, dans leur écrasante majorité, aussi bien les réformistes que les révolutionnaires, se rallient finalement à leur bourgeoisie, en justifiant l'entrée en guerre de leurs États et même en offrant leurs services pour mobiliser les travailleurs. Le 25 juillet 1914, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Les jours suivants, la guerre se généralise en Europe par le jeu des alliances militaires et diplomatiques. Les 29 et 30 juillet, le bureau de l'Internationale socialiste se réunit avec les principaux dirigeants des différentes sections nationales. La situation est critique, mais chacun se positionne alors d'un point de vue national, reprenant l'idée que son pays doit se défendre. Les dirigeants autrichiens et allemands affirment que les Serbes les ont agressés en assassinant l'archiduc autrichien. Les sociaux-démocrates français et une partie des Russes affirment que les empires centraux sont les agresseurs puisque ce sont eux qui ont déclaré la guerre. Autrement dit, les dirigeants de la classe ouvrière renoncent à leurs idées internationalistes et abandonnent la lutte des classes au profit de la patrie. Bien avant la guerre, les révolutionnaires avaient souligné que dans un conflit impérialiste, il est impossible de déterminer qui est l'agresseur et qui est l'agressé. La guerre n'est pas un problème juridique, mais un problème aux racines bien plus profondes. Un État puissant peut pousser un autre État plus faible à déclarer la guerre, par de multiples provocations par exemple. Alors, à l'été 1914, les dirigeants de l'Internationale renient tout ce qui avait fait d'eux des socialistes internationalistes, eux qui avaient pourtant dénoncé vigoureusement pendant des années la politique des États impérialistes. Le 31 juillet, Jaurès, devenu le symbole de la lutte pacifiste, est assassiné à Paris par un militant nationaliste. À son enterrement, le secrétaire de la CGT, Léon Jouhaud, commence par dénoncer le grand massacre qui s'annonce. Il réaffirme, je le cite, sa haine de l'impérialisme et du militarisme sauvage qui déchaîne l'horrible crime. Mais c'est pour mieux s'y résigner. Et il finit par déclarer que, je le cite, « Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l'envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de la civilisation et d'idéologie généreuse que nous a légué l'histoire. C'est en harmonie avec cette volonté que nous répondons présents à l'ordre de mobilisation. » Il annonce ainsi, sans fard, son ralliement à la bourgeoisie française. De l'autre côté de la frontière, le 1er août, le groupe socialiste allemand vote les crédits de guerre au Parlement. Hugo Haas, son dirigeant, déclare « Au moment du danger, nous, les socialistes, ne ferons pas défaut à la patrie. » Ils participent ainsi à l'Union sacrée, même s'ils n'entreront au gouvernement qu'à la fin du conflit. En France, la guerre est officielle le 4 août, et les socialistes français, à leur tour, votent les crédits militaires. La quasi-totalité des dirigeants du mouvement ouvrier européen passe donc, avec armes et bagages, du côté de l'impérialisme. Certains vont même jusqu'à prendre la responsabilité directe de l'effort de guerre, en entrant dans des gouvernements d'union nationale. C'est le cas de Léon Jouhaud en France, qui entre au comité de secours national, ou encore de Jules Guesde, qui devient ministre d'État. On n'applaudit pas Jules Guesde, s'il vous plaît. Cette capitulation sans combat des chefs socialistes et syndicaux révèle la maladie qui gangrenait le mouvement ouvrier depuis le début du XXe siècle. L'impérialisme, avec l'enrichissement incroyable des capitalistes qui l'entraînaient grâce au pillage de la planète, avait permis à la bourgeoisie des pays colonisateurs de faire des concessions à la classe ouvrière. Elle avait pu céder des miettes de ses immenses richesses face aux grèves et aux revendications du mouvement ouvrier. Une aristocratie ouvrière s'était formée et elle était largement représentée dans les instances des syndicats et des partis ouvriers. Des courants réformistes étaient apparus au sein des partis socialistes et de l'Internationale. Ils affirmaient que la révolution n'était plus nécessaire, que le capitalisme évoluait tout seul vers le socialisme, qu'une bourgeoisie nationale forte pouvait garantir des avantages à la classe ouvrière. Cette illusion était alimentée par le développement du parlementarisme bourgeois. La bourgeoisie des pays riches a appris, en ce début du XXe siècle, à utiliser une démocratie formelle qui laisse croire à la population qu'elle choisit ses dirigeants, alors qu'en réalité, la société reste sous la dictature des capitalistes. L'habitude de lutter pour des progrès sociaux dans la société bourgeoise, l'illusion que ces progrès pourraient être indéfinis, le fait de s'être habitué à la légalité bourgeoise d'y trouver une place, tout cela a entraîné des pressions qui dépassaient largement la seule influence des dirigeants réformistes. Ces derniers, à la tête des organisations ouvrières, partis et aussi syndicats comme la CGT, qui n'avaient pas de mots assez durs contre le parlementarisme et l'État bourgeois, avaient fini par se couler dans ce système, par considérer que les organisations de la classe ouvrière pouvaient, voire devaient y trouver leur place. En fait, ils avaient fini par s'habituer au capitalisme. Ils ne considéraient plus que les intérêts des travailleurs et de la bourgeoisie étaient irréconciliables, à tel point que certains dirigeants chantaient même les vertus de la colonisation, pour les peuples colonisés comme pour les prolétaires européens. Les révolutionnaires de l'époque avaient combattu ces courants opportunistes. Mais c'est véritablement 1914 qui a révélé la profondeur de l'intégration de la plupart des dirigeants du mouvement ouvrier à la société bourgeoise. En quelques jours, ceux-ci abandonnent donc leur position internationaliste pour préserver les positions acquises par la social-démocratie au sein des institutions bourgeoises. Il n'y a désormais plus aucune digue pour retenir le déferlement de la vague nationaliste. Après les manifestations pacifistes, ce sont les manifestations nationalistes qui occupent les rues. À Paris, on crie « À Berlin, à Berlin !» On saccage les commerces dont le nom du propriétaire sonne trop allemand. Côté allemand, voilà comment Erich Maria Remarque, un romancier qui a vécu la période, raconte l'ambiance vue par un lycéen dans son roman « À l'Ouest, rien de nouveau ». Kantorek, pendant ses leçons de gymnastique, nous fit des discours jusqu'à ce que notre classe tout entière se rendit en rang, sous sa conduite, au bureau de recrutement pour demander à s'engager. Toutefois, l'un d'entre nous hésitait et ne voulait pas marcher. C'était Joseph Bem, un gros gaillard jovial, mais il finit par se laisser persuader. Il faut ajouter qu'autrement, il se serait rendu impossible. Peut-être que d'autres encore pensaient tout comme lui, mais personne ne pouvait facilement s'abstenir, car en ce temps-là, même père et mère nous jetaient vite à la figure le mot de « lâche ». Les classes populaires adhèrent largement à l'idée de la guerre défensive. Sauf que pour le prolétariat, se défendre signifie défendre ses proches, sa famille, sa maison. Pour les bourgeois, se défendre signifie tout autre chose. Il s'agit de lutter pour leurs intérêts contre ceux de leurs rivaux impérialistes. Si les soldats ne sont pas vraiment partis la fleur au fusil, comme le veut la légende, il ne faut pourtant pas sous-estimer le sentiment nationaliste. La bourgeoisie sait parfaitement tirer profit du dévouement des travailleurs à la collectivité. Pour les embrigader dans ces guerres, ceux qu'elles considèrent habituellement comme la lie de la terre deviennent des héros. Ce serait la fin de la lutte des classes au nom des valeurs supérieures, de la lutte contre la barbarie, de l'ennemi, de la construction d'un monde meilleur, mais pour après, bien sûr. Tout cela pour envoyer les classes laborieuses se faire trouer la peau. En 1915, alors que la guerre bat son plein, Rosa Luxembourg, qui a assisté à ce déferlement de chauvinisme, affirme que les socialistes n'auraient pas pu empêcher la guerre, mais que s'ils avaient tenu leur position internationaliste, je la cite, « la voix courageuse de notre parti aurait eu pour effet de tempérer fortement l'ivresse chauvine et l'inconscience de la foule. Elle aurait gardé du délire les cercles populaires les plus éclairés. Elle aurait contrecarré le travail d'intoxication et d'abrutissement du peuple par les impérialistes. Et précisément, la croisade contre la social-démocratie aurait rapidement dégrisé les masses populaires. » Au lieu de quoi, dans un premier temps, les militants qui n'abdiquent pas leurs idées internationalistes avec l'entrée en guerre se retrouvent complètement isolés. Le soir de la mobilisation générale, les deux militants syndicalistes révolutionnaires Monat, revenu précipitamment à Paris, et son ami Rosmer sillonnent la capitale, espérant rencontrer d'autres militants et amis qui, comme eux, refusent de marcher dans l'Union sacrée. Ils vont de désillusion en désillusion entre ceux qui se sont ralliés à l'idée d'une guerre juste et défensive et ceux qui ne sont pas d'accord mais ne voient pas quoi faire d'autre à part attendre que la guerre se termine. Car l'entrée en guerre, c'est non seulement l'isolement moral, mais aussi le risque d'être arrêté et envoyé en première ligne. En rentrant chez eux, ils finissent tout de même par trouver un petit mot de Marcel Martinet, un poète proche des milieux syndicalistes qui avait griffonné. « Je voulais causer avec vous, m'assurer que c'est moi qui étais fou, et que, comme l'assurent nos amis de la presse quotidienne, on va en guerre pour le triomphe et le plus grand bien de nos idées, qui me semblent, à moi, les vrais vaincus. Je suis désespéré. » En Allemagne, Karl Liebknecht, député du Parti social-démocrate allemand, a été le seul à voter contre les crédits de guerre en décembre 1914. En mai 1915, vêtu de son uniforme de soldat, il distribue sur une place de Berlin un tract qui s'intitule « L'ennemi principal est dans notre propre pays ». Il y dénonce la diplomatie secrète qui ne sert qu'à tromper les peuples sur les véritables buts de la guerre. Le tract se termine ainsi. Assez et plus qu'assez de la boucherie. À bas les fauteurs de guerre, de ce côté-ci et de l'autre de la frontière. Fin au génocide. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous dans la lutte de classe internationale contre le complot de la diplomatie secrète pour une paix socialiste. L'ennemi principal est dans votre propre pays. Liebknecht est arrêté et emprisonné avant d'être mobilisé, puis arrêté de nouveau et inculpé de haute trahison pour avoir refusé de se servir de son fusil. Peu à peu, les militants internationalistes vont trouver l'oreille des travailleurs. L'idée que la guerre impérialiste n'a rien à voir avec la défense de la liberté, de la démocratie ou du progrès fait son chemin. D'autant qu'après les premiers mois du conflit, les illusions commencent à tomber. L'espoir des travailleurs tient désormais dans le mot d'ordre « la paix à Noël ». Les mois passant, l'opposition à la guerre commence à s'organiser. En septembre 1915, quelques socialistes internationalistes se retrouvent dans le village de Zimmerwald, en Suisse, à l'initiative des socialistes italiens et suisses. Ils sont alors si peu nombreux qu'ils tiennent dans 4 voitures à peine. Ils rédigent un manifeste dont la résolution finale adopte une position pacifiste. Nous nous sommes réunis pour renouer les liens brisés des relations internationales, pour appeler la classe ouvrière à reprendre conscience d'elle-même et l'entraîner dans la lutte pour la paix, une paix sans annexion ni indemnité de guerre. Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes doit être le fondement inébranlable dans l'ordre des rapports de nation à nation. Mais à Zimmerwald, une autre position, encore plus minoritaire, s'est exprimée, celle du parti bolchévique, représenté par Lénine. Celui-ci est un des rares partis ouvriers à ne pas avoir rallié son gouvernement au déclenchement de la guerre. Il faut dire que dans un pays arriéré et persécuté par le régime autocratique du tsar, les bolcheviks, qui avaient lié leur sort à celui de la classe ouvrière russe, avaient construit une véritable organisation de combat, bien avant que la guerre n'éclate, rompue à la clandestinité et à la lutte contre le pouvoir. Pour eux, il était hors de question de se rallier pour quelque raison que ce soit à l'État tsariste. Les bolcheviks appellent la classe ouvrière à l'action. Lénine défend une politique restée sous le nom de défaitisme révolutionnaire. Il explique qu'il ne faut pas craindre d'affaiblir son pays en combattant son propre pouvoir et que la défaite de l'État tsariste serait un moindre mal pour les travailleurs dans une perspective révolutionnaire. Cela rejoint l'idée de Liebknecht, l'idée principale est dans son propre pays. L'objectif des bolcheviks est, selon Lénine, de transformer la guerre impérialiste en une guerre pour l'expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, pour la réalisation du socialisme. La ligne pacifiste adoptée à Zimmerwald est un premier pas, un compromis entre les socialistes présents. Elle souligne le caractère impérialiste de la guerre et rompt clairement avec les mensonges qui la justifient, mais se contente encore d'en appeler à une paix sans annexion ni indemnité, ce qui revient à croire que sous le règne de la bourgeoisie, sans renverser sa domination, il serait possible d'arriver à une paix juste. Après 3 ans de guerre, les soldats, sur tous les fronts, ont connu les tranchées, les bombardements, les attaques au gaz, une cruelle nouveauté du conflit, la faim, les humiliations de la hiérarchie militaire, la boue, le manque d'équipement. C'est dans ce contexte que la révolution russe éclate en février 1917. Tout au long de la guerre, les militants bolcheviks ont partagé le sort de la classe ouvrière, dans les usines et dans les tranchées. Ils ont expliqué inlassablement, patiemment, les causes de la guerre, mettant en avant les intérêts des ouvriers. Ils ont milité pour la mise en place de comités de soldats, l'élection libre des officiers, la fin des brimades et des punitions. Quand les soldats décident de retourner leurs armes contre leurs officiers ou se mettent à déserter, leur mot d'ordre se transforme en perspective pour les masses. En février 1917, le renversement du tsar sonne comme un coup de tonnerre et permet tous les espoirs aux soldats et aux ouvriers organisés dans des conseils soviétiques en russe. Mais l'espoir de paix est vite déçu et les gouvernements russes successifs se discréditent presque plus vite qu'ils n'arrivent au pouvoir. En effet, la bourgeoisie libérale russe, puis les socialistes, mencheviks et socialistes révolutionnaires, montrent ce que valent leurs déclarations. Ils affirment que la tâche la plus importante de la démocratie révolutionnaire est d'en finir avec la guerre. Mais tous, au nom des traités signés avec les bourgeoisies alliées, continuent l'effort de guerre. En juin 1917, le gouvernement, dirigé par un socialiste révolutionnaire, Kerensky, organise même une offensive juste pour prouver aux Alliés que la Russie est toujours de leur côté. C'est une nouvelle hécatombe. L'exaspération monte dans les villes comme dans les tranchées, car malgré la révolution, rien ne semble changer. C'est dans ces circonstances que le parti bolchévique, avec un programme de classe clairement défini, va jouer un rôle crucial. Les ouvriers et les soldats prennent conscience en quelques mois qu'ils doivent prendre leur sort en main. À travers les soviets, qui sont l'ossature du pouvoir de la classe ouvrière, les bolcheviks mettent en avant leur programme, la paix et la terre aux paysans. L'objectif de la paix, lorsqu'il vient des travailleurs mobilisés ou sur le front, prend un tout autre sens que le pacifisme des bourgeois qui pensent à un accord entre gouvernements. En pleine révolution, il implique la fraternisation entre les soldats, l'union des masses opprimées contre leurs oppresseurs. Il prend un caractère véritablement révolutionnaire. Le renversement du gouvernement de la bourgeoisie par un gouvernement de la classe ouvrière en octobre 1917 bouleverse le cours de la guerre impérialiste. Dès leur arrivée au pouvoir, les bolcheviks abolissent la diplomatie secrète en publiant les traités jusque-là tenus secrets par les gouvernements et les états-majors. Ils lancent publiquement, à la radio, un appel général à la paix. Le lendemain de la prise du pouvoir, au Congrès des Soviets, devant les délégués ouvriers, paysans et soldats, Lénine lit une proclamation. Le gouvernement ouvrier et paysan propose à tous les peuples belligérants et à leur gouvernement d'entamer immédiatement des pourparlers en vue d'une paix démocratique et juste. Il en appelle à une paix immédiate, sans annexion et sans réparation. Et surtout, il appelle le prolétariat des autres pays à rejoindre la révolution, seul moyen d'affranchir l'humanité des horreurs de la guerre et de ses conséquences. Joignant les actes à la parole, les bolcheviks libèrent les prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois. Ils leur accordent la liberté de circulation et de travail. Ils abolissent le traité qui entérinait le partage de la Perse, l'actuel Iran, et évacuent les troupes de ce pays. Mais il ne suffit pas de proclamer la paix pour qu'elle se réalise. L'Allemagne, qui profite de ce qu'elle n'a plus d'armée russe face à elle, continue d'avancer. Les bolcheviks entament donc des négociations avec Berlin et ses alliés à Brest-Litovsk au début de 1918. Leur idée est de se servir de la conférence pour s'adresser directement aux classes ouvrières par-dessus la tête de leurs états-majors et les appeler à la révolution. Trotsky, qui dirige la délégation soviétique, exige que les négociations soient retransmises publiquement à la radio, au grand désarroi des généraux et diplomates bourgeois. Il fait traîner les discussions, multiplie les gestes et les déclarations dans l'espoir que cette propagande fasse son effet dans les tranchées européennes. Mais même s'il y a des fraternisations, voire des mutineries, comme en 1917 en France, la révolution se fait attendre en Europe. Par ailleurs, l'Allemagne continue son offensive sur le front occidental et les anciens alliés de la Russie, effrayés à juste titre par la révolution ouvrière, se retournent contre elle. Les bolcheviks sont contraints de signer une paix séparée avec l'Allemagne en mars 1918. Commence alors une terrible guerre civile. Les puissances impérialistes des deux camps soutiennent de toutes leurs forces les troupes contre-révolutionnaires qui tentent de renverser le nouveau pouvoir soviétique. Elles envoient des troupes, comme dans la mer Noire en 1919, une bien mauvaise idée de leur point de vue, puisque les marins français, au contact des Russes, se mutinent et fraternisent. Mais les bolcheviks sont assiégés, encerclés, et seul l'enthousiasme révolutionnaire de la nouvelle armée rouge permet de repousser l'offensive. La guerre civile ne prendra fin qu'en 1921, au prix d'innombrables morts et destructions. L'incendie révolutionnaire qui a éclaté en Russie en 1917 va finir par s'étendre par-delà les frontières. Les masses, exaspérées par la guerre et encouragées par la révolution, se mettent en mouvement avant même la fin de la guerre. En 1918, en Finlande, les ouvriers réclament une réforme agraire, s'organisent en garde rouge pour prendre le pouvoir. La même année, la guerre n'est pas encore finie lorsque l'Allemagne se couvre de comités de soldats et d'ouvriers. Les marins de Kiel se mutinent. Dans cette situation révolutionnaire, la Ligue spartakiste, fondée par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht après la trahison des sociaux-démocrates, appelle à ce que les comités prennent tout le pouvoir, comme en Russie. Une éphémère République des Soviets est instaurée en Bavière et en Hongrie, où elle durera 4 mois. En Italie, l'agitation ouvrière s'intensifie. Ce sont les années rouges de 1919 et 1920. Les ouvriers occupent les usines et se défendent les armes à la main. Les quartiers ouvriers s'organisent. Les bolcheviks placent tous leurs espoirs dans cette vague révolutionnaire qui est en train de disputer le pouvoir à la bourgeoisie. C'est dans cette optique qu'ils annoncent la fondation, en mars 1919, d'une nouvelle internationale, la troisième, qui reprend le flambeau des idées internationalistes abandonnées par la Seconde internationale. Il s'agit de constituer, dans le feu des événements, un véritable état-major de la Révolution mondiale, de précipiter la rupture avec le réformisme et l'opportunisme de la social-démocratie, et de créer des partis révolutionnaires qui prennent le nom de communistes pour marquer la rupture. En une année, l'internationale communiste rallie à son drapeau des millions de travailleurs à travers le monde. Après la barbarie de 3 années de guerre, la perspective de renverser l'ordre mondial par la révolution prend soudainement corps. Les idées des révolutionnaires qui semblaient impuissants au moment de Zimmerwald, celles de Liebknecht et de Rosa Luxembourg emprisonnées par le gouvernement allemand, s'emparent des masses. La bourgeoisie, avec l'aide de la social-démocratie, déploie tous les moyens pour éteindre l'incendie qui menace l'ordre impérialiste. En Allemagne, c'est un socialiste, Nosk, qui assume le rôle de chien sanguinaire de la révolution, selon ses propres mots. Il organise la répression des ouvriers et soldats révolutionnaires et couvre l'assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en janvier 1919. En Finlande, 20 000 soldats allemands débarquent pour mettre fin à la révolution. En Italie, la bourgeoisie s'appuie sur les bandes armées de Mussolini pour organiser la contre-offensive contre les organisations ouvrières et paysannes. Par peur de la contagion bolchévique, les puissances impérialistes tentent de mettre en place un cordon sanitaire en s'appuyant sur les pays baltes nouvellement indépendants comme base avancée contre la Russie, ou encore en soutenant les nationalistes réactionnaires polonais menés par Pilsudski. La Première Guerre mondiale a été un carnage dans lequel des millions de travailleurs ont été sacrifiés tandis que les capitalistes ont continué à faire leur profit. Anatole France écrira à juste titre après le massacre « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels ». La guerre a dévoilé le capitalisme tel qu'il est, sans phare, dans toute sa brutalité, et elle a déclenché une première vague révolutionnaire. Si celle-ci reflue dans les années de l'immédiate après-guerre, c'est que la révolution n'évolue pas de manière linéaire. Les bolcheviks et la Troisième Internationale savaient que d'autres remous suivraient, car le capitalisme n'était pas et ne pouvait pas être stabilisé. La Première Guerre mondiale, avec son cortège d'horreurs, devait être la der, la dernière boucherie de l'humanité. Mais sous le capitalisme, la paix ne peut être qu'une trêve entre deux guerres. Les hostilités militaires ont abouti à la défaite d'un camp. Les hostilités diplomatiques prennent la relève. Comme des brigands se partageant un butin, les alliés de la veille s'écharpent autour de la table du traité de paix pour obtenir la plus grosse part possible du gâteau que constituent les pays vaincus. La France et l'Angleterre se partagent les colonies allemandes, étendent leur domination sur les ruines des empires ottomans, austro-hongrois et russes. En Europe, ils retracent les frontières. L'Alsace-Lorraine est rendue à la France qui l'avait perdue lors de la guerre de 1870. La carte de l'Europe centrale est redessinée par les vainqueurs pour affaiblir l'Allemagne et l'Autriche sans tenir aucun compte des peuples. Le territoire de la Hongrie, issu de la dislocation de l'Empire austro-hongrois, est considérablement réduit, notamment au profit de la Yougoslavie, qui comprend des minorités croates, slovènes, serbes, tandis que la Tchécoslovaquie, dans l'orbite de la France, se voit attribuer, entre autres, une région de langue allemande, les Sudètes. Toutes ces tractations sont officialisées lors de différents traités imposés par les vainqueurs, en particulier le traité de Versailles. Comme le dit Trotsky, les frontières de l'Europe de Versailles sont taillées dans la chair des nations. À Versailles, la France a imposé à l'Allemagne le paiement d'exorbitantes indemnités de guerre. D'ailleurs, en 1923, elle va occuper militairement la Ruhr, une région frontalière, car l'Allemagne n'arrive pas à honorer ses paiements. Son armée se voit réduite à 10 000 hommes, le strict nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre dans le pays, autrement dit, la défense de l'État contre la classe ouvrière. Finalement, les États-Unis et l'Angleterre, qui craignent que la France devienne une puissance trop importante en Europe, vont permettre à l'Allemagne d'alléger un peu son fardeau et de relancer son économie. Cette paix des vainqueurs, comme on l'a appelée, sème les graines du prochain conflit avant même que l'encre du traité de Versailles soit sèche. L'Italie n'a pas obtenu les terres convoitées sur l'Adriatique que les Alliés lui avaient pourtant promises avant 1914. Le Japon, alors puissance industrielle et allié des Britanniques, qui n'a pas réussi à se constituer un empire colonial auparavant, est même contraint de se retirer de certaines régions de Sibérie et de Chine. Les impérialismes allemands, italiens, japonais ne vont pas tarder à étouffer dans leurs frontières nationales. Dans l'entre-deux-guerres, l'Europe finit tant bien que mal par se relever, mais elle a définitivement perdu sa suprématie sur le monde, désormais supplantée par l'hégémonie américaine. Les États-Unis sont en effet les seuls véritables vainqueurs du premier conflit mondial. Ils s'en sont longtemps tenus à l'écart, du moins de manière directe. Mais dans une guerre mondiale, personne ne peut rester uniquement spectateur. Pour s'imposer comme les arbitres du nouveau partage du monde, ils finissent par entrer en guerre en avril 1917, après que les États européens se sont tous considérablement affaiblis. Les États-Unis n'ont eu que des pertes négligeables en comparaison des plus de 20 millions de morts et autant de blessés de la Première Guerre mondiale. Ils se sont enrichis en alimentant pendant toute la guerre les belligérants en fournitures et en armes, ce qui a permis à l'industrie américaine de croître de façon exponentielle et de donner la mesure de sa puissance. À la tête de ces nouveaux capitaux, ils cherchent désormais à les placer, une autre manière de conquérir le monde. Ils imposent alors aux États européens, vainqueurs comme vaincus, un plan de redressement. Tous sont en effet exsangues. Les destructions sont immenses, l'appareil productif est dévasté. La reconstruction est encore un marché juteux pour les capitalistes américains. Dans le reste du monde, les États-Unis poussent au démantèlement des empires coloniaux, car ils comptent sur leur supériorité économique pour s'y imposer. Le tout sous les mots d'ordre de libre concurrence, liberté et démocratie. Ils n'ont pas besoin de canons ni de chars, la puissance du dollar leur suffit. Dans les faits, la liberté des mers, défendue par le président américain Wilson, se trahit par la fin de la domination britannique sur les mers du globe. Arrivé bien plus tard dans la course au partage du monde, l'impérialisme américain s'étend aux dépens des impérialismes européens désormais déclinants. C'est dire si l'équilibre de l'après-guerre ressemblait davantage à un château de cartes dans la tempête qu'à un havre de paix et de sécurité. Tout est prêt pour une nouvelle marche à la guerre. La seule question qui reste encore en suspens est celle des camps qui se feront face. Comme le dit Trotsky, les destructions de la guerre et le repartage du monde n'ont pas permis d'injecter du sang neuf dans les veines sclérosées du capitalisme. Les mêmes contradictions économiques demeurent. L'étroitesse des marchés par rapport au dynamisme de l'industrie, l'importance de plus en plus grande de la spéculation financière. Ces contradictions entraînent une crise générale à partir de 1929 qui ravage l'économie mondiale. L'industrie allemande, qui a fini par se redresser avec l'aide des capitaux américains et est même devenue l'une des plus la plus dynamique et la plus puissante d'Europe, ne trouve pas de débouchés suffisants. La bourgeoisie allemande n'a plus d'autre choix que de préparer une nouvelle guerre pour se sortir du carcan dans lequel l'ont enfermé les vainqueurs de 1918. En Asie, Le Japon, très touché par la crise de 1929, trouve un débouché en envahissant la Mandchourie. En Afrique, Mussolini entreprend la conquête de l'Éthiopie. Bref, le voile déjà bien mince de la paix impérialiste se déchire. Ce sont les États qui s'estiment lésés qui vont remettre en cause l'ordre mondial et préparer pour ce faire la nouvelle marche à la guerre. Celle-ci aurait pu être entravée, car des épisodes de montée révolutionnaire n'ont pas cessé de survenir à un endroit ou à un autre, malgré la retombée de la vague de 1917-1920. En Allemagne en 1923, en Chine en 1925-27, sans compter la grève générale qui éclate en Grande-Bretagne en 1926. De nouvelles possibilités s'ouvrent aux révolutionnaires. D'autant que la situation internationale est marquée par l'existence de l'URSS. Les pays impérialistes avaient tout fait pour tenter d'écraser le régime des Soviets. Mais il avait survécu et représentait un espoir pour des millions de travailleurs regroupés dans des partis communistes sous la bannière de la Troisième Internationale. Ces partis ont pour la plupart scissionné d'avec les partis sociaux-démocrates pour défendre une ligne résolument révolutionnaire et internationaliste. C'est le cas, par exemple, lorsque l'armée française occupe la Roure en 1923. Les militants communistes français mènent une campagne pour dénoncer cette occupation dans les casernes auprès des soldats. De même, lors de la révolte des Marocains dans la région du Rif entre 1921 et 1926, le Parti communiste affirme sa solidarité et son soutien au peuple marocain et à celui qui mène la révolte, Abdelkrim. Le journal L'Humanité, qui a été repris par les communistes en 1921, publie l'appel suivant aux soldats et aux marins, dans lequel il appelle les militaires français à la fraternisation, je cite. « On vous envoie mourir au Maroc pour permettre à des banquiers de mettre la main sur les riches gisements de la République du Rif pour engraisser une poignée de capitalistes. Vous ne serez pas les valets de la banque. Fraternisez avec les Rifains, arrêtez la guerre du Maroc. » Dans toutes ces situations, une direction mondiale de la révolution aurait pu jouer un rôle crucial pour coordonner les différents mouvements, pour coordonner les mouvements dans les différents pays. Or, la politique de l'international prend rapidement un tout autre cours lié à l'évolution du régime des Soviets. La première vague révolutionnaire ayant reflué, l'URSS étant restée isolée au sein du monde capitaliste, le pouvoir issu de la révolution d'octobre s'est sclérosé. Les trotskistes en URSS ont combattu cette évolution et Trotsky a longuement analysé cette situation inédite dans l'histoire. Au milieu des années 30, il décrit l'URSS comme un État ouvrier dégénéré, un État issu de la révolution avec pour principal acquis l'expropriation de la bourgeoisie et l'étatisation des moyens de production, mais dans lequel le pouvoir a été confisqué par une nouvelle couche sociale. Dès 1924, la formule aberrante du socialisme dans un seul pays, utilisée par Staline, révèle le poids acquis par cette bureaucratie au sein de la société et de l'État. Elle se détache de la classe ouvrière et craint plus que tout une nouvelle vague révolutionnaire qui remettrait en cause sa nouvelle situation privilégiée. Des révolutions, même à l'extérieur de l'URSS, risqueraient d'y encourager les travailleurs à reprendre le contrôle de leur État. Les bureaucrates staliniens se rendent donc complices de la bourgeoisie, en faisant tout pour empêcher une nouvelle révolution victorieuse et laissent la classe ouvrière mondiale désarmée face à la nouvelle guerre qui approche. Fondamentalement, les causes de la Seconde Guerre mondiale sont les mêmes que celles de la Première, et sa nature aussi. C'est une guerre impérialiste. Mais on nous dit, et on nous répète depuis 1945, que c'était celle de la démocratie contre le fascisme. Un mensonge, un mythe, qui a la vie dure, puisqu'on l'enseigne aux enfants à l'école. Le fascisme est né en Italie, dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Après 2 ans de luttes ouvrières, d'occupation d'usines, de soulèvements dans les campagnes, capitalistes et grands propriétaires terriens se sont appuyés sur des milices armées, les faisceaux de Mussolini, semant la terreur pour briser les travailleurs. En Allemagne, le nazisme reprend les mêmes méthodes et se développe de façon fulgurante à partir de la crise de 1929, attirant à lui de larges masses de la petite bourgeoisie ruinée et rendue enragée. La bourgeoisie se décide alors à utiliser Hitler et son parti national-socialiste pour mater les organisations de la classe ouvrière, l'une des plus importantes et des plus organisées d'Europe. Les troupes de choc nazies empêchent les meetings de se tenir, brûlent les maisons du peuple, assassinent les militants ouvriers. Ceux-ci seront les premiers à être enfermés dans des camps de concentration en Allemagne. Le nazisme doit permettre à la bourgeoisie allemande d'enrégimenter la société pour préparer la guerre. Dès juin 1933, 5 mois seulement après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dans son texte « Qu'est-ce que le national-socialisme ?», Trotsky prévoit que « le délai qui nous sépare d'une nouvelle catastrophe européenne est déterminé par le temps nécessaire au réarmement de l'Allemagne ». Les gouvernements dits « démocratiques » s'accommodent tout à fait du fascisme, tant qu'ils ne les menacent pas dans leurs intérêts. Ils commencent par applaudir des deux mains la politique de terreur menée par les fascistes contre la classe ouvrière. Winston Churchill, qui deviendra Premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, déclare à Mussolini en 1927 « Si j'avais été italien, je suis sûr que je vous aurais apporté un soutien total à toutes les étapes de votre combat triomphant contre les passions et les appétits bestiaux du léninisme. » Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, aucune démocratie bourgeoise ne trouve rien à redire. Et si l'opinion publique s'émeut de l'attribution des Jeux Olympiques à Berlin en 1936, les diplomates, eux, cautionnent l'événement utilisé par le régime pour faire sa propagande. Les soi-disant démocrates ne se dresseront contre Hitler que dans la mesure où il constituera une menace pour eux. Et encore, ils attendront le dernier moment, espérant que l'Allemagne s'attaquera d'abord à l'URSS. En 1937 et 1938, les gouvernements français et britanniques laissent Hitler annexer l'Autriche et la Tchécoslovaquie sous prétexte de sauvegarder la paix. De la même manière, lorsque le général réactionnaire Franco déclenche la guerre civile en Espagne en 1936, ils adoptent une attitude de neutralité qui consiste en réalité à regarder se faire massacrer les travailleurs espagnols qui se sont soulevés contre le coup d'État. Alors qu'Hitler et Mussolini envoient armes et soutien financier aux dictateurs, la France républicaine du Front populaire non seulement n'intervient pas, mais parque les réfugiés républicains espagnols dans des camps. Et comment parler de démocratie alors que la France, la Grande-Bretagne, écrasent les peuples de leurs empires coloniaux qui commencent à réclamer leur indépendance ? Partout, ils enferment les nationalistes et massacrent les populations qui tentent de résister à l'exploitation et au pillage. En fait, avec la marche à la guerre, même dans les métropoles, les régimes les plus démocratiques évoluent partout dans un sens de plus en plus autoritaire. L'incapacité à sortir de la crise économique se traduit par l'instabilité politique, le discrédit du parlementarisme, des solutions réformistes. Les tensions entre les classes sociales s'aggravent, tout comme l'exploitation capitaliste. En France, le 6 février 1934, des bandes d'extrême droite armées prennent d'assaut l'Assemblée nationale. Les institutions républicaines apparaissent bien fragilisées et ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la classe ouvrière qui prend conscience du danger, descend dans la rue et réclame l'unité ouvrière face à la réaction. « L'évolution réactionnaire de l'État se trouve momentanément contrecarrée par la vague de grève de 1936. Mais dès 1938, le gouvernement impose un retour en arrière. Suspension de fait de la semaine de 40 heures, blocage des salaires, répression violente contre les grèves et manifestations ouvrières, enfermement des contestataires dans les camps, y compris les réfugiés qui fuient les régimes fascistes. L'aboutissement de ce coup réactionnaire, ce sera le vote des pleins pouvoirs à Pétain par le Parlement en 1940, avec les voix de la plupart des députés socialistes. Alors oui, la légende des démocraties luttant contre le fascisme est un piège qui sert à embrigader les peuples derrière les intérêts de leur bourgeoisie, à jeter un voile hypocrite sur leur visée impérialiste. Tous sont en réalité responsables de la nouvelle guerre qui va arriver, y compris les démocrates occidentaux et l'impérialisme américain. Au lieu de dénoncer ce mensonge et de préparer la riposte de la classe ouvrière, la politique de l'international communiste consiste au contraire à naviguer entre les différentes forces qui déchirent le monde impérialiste pour s'y faire une place. Staline ne désire rien tant que le statu quo, une stabilité qui permette à la bureaucratie de se maintenir. Toute la politique étrangère de l'URSS, faite d'une succession de virages à 180 degrés en fonction des différents rapports de force, est tournée vers cet objectif. Staline transforme l'international et les partis communistes en outils dociles de sa diplomatie. Toutes les oppositions, et même ceux qui expriment des doutes, sont exclus. Les partis communistes de tous les pays deviennent des appareils aux ordres de Moscou, stalinisés à l'image de la bureaucratie soviétique. Et une fois mis au pas, ils défendront la politique extérieure de l'URSS, et non plus la perspective de la révolution mondiale. En Allemagne, cela conduit le Parti communiste à mener une politique suicidaire face à la menace nazie. Sous la direction de l'international, il dénonce les socialistes comme les pires ennemis de la classe ouvrière et repousse donc toute alliance avec eux, même pour se défendre contre les attaques des chemises brunes. La classe ouvrière allemande va le payer d'une défaite monstrueuse. Le parti lui-même est complètement écrasé, interdit dès février 1933. Ses militants sont internés ou assassinés. Mais la victoire d'Hitler, c'est aussi la menace directe d'une agression de l'impérialisme allemand contre la Russie soviétique. Staline opère donc un revirement et se met à rechercher l'alliance des démocraties bourgeoises occidentales. L'international lance alors la politique dite des fronts populaires. À la stupéfaction des militants, Staline signe en 1935 un pacte avec Pierre Laval, le réactionnaire ministre des Affaires étrangères français. Ce pacte stipule que la France et l'Union soviétique se porteront assistance en cas d'agression et affirme la légitimité d'une politique de défense nationale face à Hitler. La bureaucratie stalinienne signe ainsi son ralliement aux puissances impérialistes. En 1936, le Parti communiste soutient le gouvernement de Léon Blum pour arrêter la grande vague de grève avec occupation d'usines. Le 29 mai, le journal du parti, L'Humanité, publie un article dans lequel l'auteur affirme « Tout n'est pas possible », c'est le titre de l'article, et que, je cite, « Nous estimons impossible une politique qui, face à la menace hitlérienne, risquerait de mettre en jeu la sécurité de la France pour laquelle le Front populaire est responsable. » Il s'agit de ne pas gêner la bourgeoisie française dans sa marche à la guerre contre l'Allemagne nazie. Symbole de ce ralliement, l'URSS adhère à la Société des Nations en 1934 alors que l'Allemagne nazie vient de s'en retirer. La République soviétique entre alors dans le repère des brigands, comme Lénine qualifiait cet organisme censé assurer la paix mondiale. Dès lors, La Troisième Internationale mène une agitation pacifiste, non pas sous le drapeau du prolétariat révolutionnaire, mais sous celui de la bourgeoisie nationale et des démocrates. En 1936, en Espagne, la classe ouvrière se soulève contre le coup d'État de Franco. La politique des staliniens consiste, là encore, à aligner les ouvriers derrière la bourgeoisie républicaine, qui avait encore plus peur de la révolution sociale que du général réactionnaire. Malgré les discours glorifiant l'héroïsme réel de la classe ouvrière espagnole, malgré le fait qu'ils organisent les brigades internationales, en réalité, leur politique les conduit à désarmer politiquement et matériellement la classe ouvrière. C'est chose faite dès 1937 et la voie est ouverte à la victoire de Franco en 1939. Dans une large mesure, la guerre civile espagnole est une répétition de la guerre généralisée qui arrive. Hitler et Mussolini testent leurs armements et la réaction des impérialistes qu'ils auront à affronter ensuite. Les camps se dessinent. En URSS, Staline liquide la génération qui a fait la révolution et gagné la guerre civile. Au cours des procès de Moscou, entre 1936 et 1938, les camarades de Lénine et de Trotsky, les anciens dirigeants du parti bolchévique et de l'Internationale communiste, sont traînés dans la boue et exécutés. D'autres, bien plus nombreux encore, sont assassinés sans procès dans les camps de Staline. Pour la bureaucratie, il faut extirper l'idée même de la révolution internationale. Puis, en août 1939, Staline opère encore un revirement en signant un pacte de non-agression avec Hitler, alors qu'il avait utilisé la lutte contre le fascisme comme prétexte à son alignement sur les démocraties impérialistes. C'était la stupéfaction pour les militants communistes à qui l'on fait croire qu'il s'agit d'une ruse pour mieux préparer la guerre contre Hitler. En fait, il les poignarde dans le dos. Dans nombre de pays, le pacte germano-soviétique est le prétexte à l'interdiction des partis communistes. Un sommet d'hypocrisie de la part des dirigeants bourgeois qui serraient la main à Hitler quelques mois auparavant. En fait, la bureaucratie stalinienne craint la guerre. Elle sait que celle-ci bouleverse les esprits, qu'elle accélère l'histoire, selon la formule de Lénine. Elle est susceptible d'accoucher d'une révolution, comme l'a montré la Première Guerre mondiale. D'autant plus que la situation intérieure de l'URSS n'est pas brillante. Ils redoutent de devoir faire la guerre avec des soldats et paysans mécontents. Staline ne rejoindra les Alliés que contraint et forcé par Hitler, lorsque l'armée allemande envahira l'URSS en 1941.